toujours en direct sur 96.0, c'est Radio Resistencia, et aussi en direct sur Internet et en streaming sur le site de Fréquence Banane, avec une grande fête ici au Parc des Bastions. Si vous avez le temps et l'envie, venez nous rendre visite sur le stand de Radio Resistencia. Nous sommes juste ici à côté de la scène de la Crib. Nous avons eu tout à l'heure au téléphone Maria Roth Bernasconi, conseillère nationale et coprésidente des femmes socialistes suisses, et nous poursuivons donc notre soirée, nos interviews en direct, un peu à l'arrache on les fait, mais pas, c'est tout le plaisir de cette fête. Caroline Dayer qui est avec nous, bonsoir.
Bonsoir
et bienvenue. Manon Pulvert toujours à côté, avec partout,
voilà, de tout cœur avec vous,
de tout cœur avec nous. Manon Pulvert, je le rappelle pour nos auditrices, auditeurs, dramaturges. Et puis nous avons en direct Stéphanie Payu, maître assistante à l'Université de Lausanne et spécialiste des questions féminines. Stéphanie Payu, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, comment s'est passée votre journée du 14 juin ?
Eh bien, elle s'est passée à peu près en grève. J'ai participé à un repas avec mes collègues de travail, ma chef qui avait organisé une journée un petit peu off. On est allé visiter un musée, le musée historique de Lausanne, et puis on a rejoint les manifestations à la place de la Riponne.
Ah, donc c'est bien, vous avez pu faire même la grève.
Absolument. C'était D'accord. une grève un petit peu officieuse, mais on a pu faire la grève et participer aux manifestations.
Quelles sont les revendications que vous avez portées lors de cette grève et de cette journée d'action nationale, Stéphanie Payu?
Je ne les ai pas portées plus que les autres, que les autres journées, mais c'est toujours les mêmes. C'est vraiment l'idée qu'il faut continuer à se battre pour se libérer des assignations de genre, qu'il faut vraiment sortir des codes qui enferment encore les hommes et les femmes dans des rôles trop déterminés pour moi. Et puis, il y a évidemment la cause militaire pour cette égalité des salaires qui reste nécessaire.
D'accord. Stéphanie Payu, je vous propose, si vous, je m'excuse, comme je le disais tout à l'heure, on fait un peu les choses à l'arrache. Est-ce que vous avez envie de rester encore un petit moment avec nous?
Je peux rester avec vous, oui.
Très bien. Parce qu'on va vous faire écouter, en fait, une chronique que nous avons présentée, qui me semble extrêmement intéressante par rapport à, justement, ce dont vous venez de nous parler. Si vous entendez beaucoup de bruit, c'est parce qu'il y a la fête, et parce qu'il y a énormément de gens qui sont là au Parc des Bastions. Et puis, je vous propose d'écouter cette chronique, et puis j'aimerais entendre votre réaction par rapport à ça. Eh bien, nous avons eu la chance de rencontrer pour une interview lors de son court passage en Suisse Carla Lagerfeld. On ne la connaît pas. Et pour cause, tout le monde connaît son frère, Karl Lagerfeld. Elle est venue pour nous parler de son livre « Une robe de chambre à soie », un livre dans lequel elle dénonce l'injustice que vit son frère Karl. Je lui ai demandé comment se fait-il que nous découvrons son existence seulement maintenant. Une réussite exceptionnelle que de vivre dans l'ombre, rarement possible pour les hommes. Je vous propose d'écouter Carla Lagerfeld.
Ça montre un petit peu dans ce livre ça, que j'ai eu cette chance de naître du bon côté de la barrière en tant que femme, et que j'ai abusé sans état d'âme de mes prérogatives de fille, de femme, sans remettre en cause jamais mes privilèges jusqu'ici. Et depuis ma petite tendre enfance, c'est toujours Karl qui a dû s'y coller. Tout de suite, il a dû aller plonger dans le renom, dans la fortune, dans la gloire, tout ça, toutes ces choses tellement épouvantables. Bon, il a quand même lutté pour au moins un petit peu d'élégance. Il l'a obtenu, mais à quel prix ? C'est ça le problème que je parle dans le livre. Pour un homme, lutter pour l'invisibilité, pour l'insolvabilité, pour
l'élégance.
Pour l'élégance, oui, aussi, surtout. Eh bien, ça se paye au prix fort et souvent. La plupart du temps, il faut choisir.
Il faut choisir, oui. Ah ouais.
Il n'y a que les femmes qui obtiennent sans problème, sans discussion, les trois choses. L'ombre, l'insignifiance, l'élégance. Oui, les femmes, elles ont ça naturellement. C'est très, très, très injuste.
Arrivé à Paris vers l'âge de 15 ans, il devient à 17 ans l'assistant de Pierre Balmain, puis enchaîne les contrats pour Chloé, Fendi et enfin Chanel. À travers les années, Karl est devenu une icône et une référence dans le milieu de la mode.
Karl est vraiment unique, c'est une sorte de génie.
Et
is not just good in fashion, obviously, it's one of the best legendary designers of the world.
Il y a des courants de lutte différents dans le mouvement de cette délivrance masculine.
Oui, c'est ça. Ce n'est pas tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Les plus courageux, hein, les plus courageux, et moi je partage peut-être un petit peu cette position, mais c'est plus radical.
Vous êtes un peu radical, ouais.
Peut-être parce que je commence à avoir de l'âge, et avec l'âge, on n'a plus tellement de temps. Hein. Mais enfin, écoutez, sérieusement, les plus courageux, ils exigent tout. Ils ont peut-être raison. Il faut que les hommes puissent maintenant acquérir, ça suffit. Désormais, ils puissent avoir accès aux mêmes droits que les femmes. Brushing le matin, shopping à toutes les heures, travail sans salaire, cuisine le soir et puis pof, une claque de dos. Hein. Ça, c'est... Enfin, il faut maintenant. Ça doit être possible pour les hommes. Alors d'autres, ils pensent qu'il ne faut pas trop demander trop vite, hein, pour sous peine de déboussoler les femmes.
Hein. C'est une espèce d'attitude très détachée, oui, c'est pas coincé. Hein. Il faut traiter, si on a la possibilité d'acheter du luxe, comme si ça ne coûtait pas cher.
Karla Lagerfeld, si on lit votre livre, dont je rappelle le titre, « Une robe de chambre à soi », eh bien, ce n'est pas facile d'être le frère de Karla Lagerfeld.
Non, je dois l'avouer. Hein, j'ai mis toute une vie à le faire, peut-être. Eh bien, c'est à talent égal, c'est moi qui ai automatiquement eu le droit de rester dans la vie discrète, à ne pas devoir exister, pas devoir fournir sans cesse, pas devoir briller sous le feu des médias. La célébrité, c'est tellement ordinaire, tellement vulgaire. Et c'est un engrenage. On ne naît pas Karl Lagerfeld tel que vous le connaissez. On le devient à force de lavage de cerveau. C'est un petit peu ça que j'ai voulu développer.
Et pour vous, tout finalement était extrêmement simple, n'est-ce pas? Si on voit l'ascension de votre frère.
Absolument. Depuis l'enfance, toujours à moi, l'élégance naturelle, la finesse, la douceur, la délicatesse, la transparence, les belles choses, toutes ces valeurs tellement dominantes, c'était tout pour moi. Alors quand on pense, imaginez, quand on pense que les hommes, aujourd'hui encore, sont toujours obligés de porter un pantalon. C'est quand même une horreur. Et je ne parle même pas de l'assignation à porter une cravate. Hein. C'est toujours court. C'est presque un scandale.
Enfant solitaire d'une Allemagne lointaine, gosse de riche et enfant de vieux, entouré de livres, de domestiques et de précepteurs. Il est déjà le dramaturge et le décorateur de sa propre vie.
J'étais pensé que j'étais le centre du monde. Je détestais les enfants, en plus, c'était pas vraiment une concurrence très rude, ni à l'école, ni rien, avec la fille du dentiste qui était vaguement correcte, bûcheuse. Quand quelqu'un me demandait, alors, ça va à l'école, je lui tournais le dos. Ça veut dire, c'est des questions à poser à des débiles. J'ai toujours voulu être différente, donc ça, c'est pas une idée de différence. Ça me paraissait indispensable et naturel de ne pas être comme les autres. Mais je ne voyais ça pas comme pour être différent, je me savais différent comme ambition, comme intérêt, comme tout. Je ne voulais surtout pas ressembler à ce que je voyais. Parce que les autres, ils avaient des petites chemisettes et des pulls tricotés par maman. Comme ma mère ne les tricotait pas, c'était un risque que je ne courais pas. Et comme personne dans le nord de l'Europe avait des tenues tyroliennes, c'est ça que je voulais. Alors par exemple, j'adorais les chapeaux tyroliens avec la plume ou les blaireaux. Et quand je voulais mettre ça, ma mère, comme on dit, peut-être on dit un jeu pareil, enfin, ne mets pas ça, t'as l'air d'une vieille lesbienne avec ça. Est-ce qu'on dit ça à un enfant? Et quand je demandais ce qu'était l'homosexualité, vous savez ce qu'elle m'a répondu? Oh, c'est comme une couleur de cheveux. Et au fait, elle avait raison, c'est rien.
Juste pour comprendre, Karla Lagerfeld, êtes-vous pour ou contre l'interdiction du port de la cravate ou du pantalon?
L'interdiction, c'est peut-être un petit peu fort, hein, mais je pense qu'un débat est nécessaire. Ça, je pense qu'absolument qu'il faut maintenant faire un débat sur ces questions de société fondamentale. Il faut que les femmes fassent un effort et arrêtent d'obliger les hommes à porter ces tenues stéréotypées. Mais c'est en tout cas la vérité. Moi, j'ai choisi de faire le pas. Je pense que Karl, il a vécu dans l'obligation de cette lumière et que moi, j'ai eu cette chance. Alors, je pense que comme des millions d'hommes, il n'a pas, lui, eu ce choix. Et je veux un petit peu être un porte-parole.
Stéphanie Pahut, je sais que vous avez eu, je pense, beaucoup de mal à écouter cette chronique, mais je pense que vous avez compris l'idée. Nous sommes dans les stéréotypes, mais les stéréotypes à l'envers.
Oui, bon, ce qui est intéressant dans ce que j'ai pu entendre, c'est qu'il y a vraiment cette idée qu'il faudrait aussi libérer les hommes de toutes ces assignations de genre. Alors après, c'est effectivement très stéréotypé, puis on inverse simplement un petit peu les rôles. Mais ce qu'il y a de fondamental quand même, c'est de dire que les luttes féministes d'aujourd'hui doivent concerner autant les hommes que les femmes. C'est ce que j'ai pu retenir.
Bah, Manon Pulvert, une question.
Oui, bonjour. La grande question souvent actuellement, c'est qu'avec l'apparition des problématiques, de la question du genre, à la fois on a l'impression qu'on a énormément enrichi le débat et on l'a ouvert intellectuellement, je dirais même presque philosophiquement, et en même temps on entend qu'il y aurait parfois une certaine confusion, voire une certaine contradiction pour certaines militances, et que parfois on pourrait même être un peu en freiner sur ces questions-là.
Bon, je pense qu'on a effectivement ouvert les débats, donc le genre, c'est vraiment plus un impensé des discours médiatiques, des discours sociaux. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a plusieurs formes de féminisme aujourd'hui qui se côtoient. Il y a un féminisme de la féminité différentialiste qui veut mettre en avant une particularité féminine, et puis il y a un féminisme universaliste que moi je défendrais plutôt, qui veut absolument que l'identité sexuelle ne soit plus le principe de base de la construction de l'identité. Donc je pense que la confusion vient de là. Après, il y a tous les préjugés qu'il y a sur le féminisme. Quand on va dire que les féministes sont des moralisatrices hystériques, c'est encore des préjugés qui traînent dans l'imaginaire.
Caroline Dyer, une question pour vous. Caroline, une question peut-être pour Stéphanie Pahut. Non.
Comme on se connaît un petit peu, on a à peu près les mêmes positionnements, donc peut-être que ce que je peux lui poser comme question depuis les bastions et de Genève jusqu'à Lausanne, ce serait effectivement en quoi est-ce que tu penses que la théorie du genre a un impact pratique et politique.
Je pense que la théorie du genre a un impact pratique parce qu'on est obligé de réfléchir aux différences qu'on fait quotidiennement dans absolument tous les domaines. Autant dans la vie professionnelle, on est obligé de réfléchir par exemple à cette question de l'égalité des salaires, on est obligé de réfléchir aussi dans la question de la vie domestique, à la répartition des tâches. Donc on est obligé de se poser la question de ce qu'on faisait de façon spontanée ou naturelle, de cette répartition qui semblait complètement naturelle des rôles dans la société. Donc je pense que toutes ces théories féministes sur le genre ont permis ça, de mettre un filtre qui nous permet de chaque fois cerner la différence.
Manon Pulvert.
Oui, merci. Moi, la grande question, je trouve, aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va vulgariser, dirais-je, les questions de genre. On se rend compte, il semble, en tout cas de plus en plus, que dans la jeune génération, la toute jeune, les adolescents et les jeunes adultes, les stéréotypes se creusent à nouveau, sont de nouveau très marqués. Oui. Et les garçons sont, voilà, il y a des identités très fortes qui sont de nouveau assignées. Et comment on explique ce paradoxe finalement, alors que cette théorie du genre fleurit et passionnante en réalité?
Mais je pense que la question de la vulgarisation, elle est fondamentale, c'est ce qu'on ne fait pas assez. Mais pour moi, ce qu'il faut montrer déjà depuis tout petit, c'est montrer le système dans lequel on fonctionne, expliquer ce système de police des genres, montrer déjà aux petits garçons et aux petites filles comment on les fait rentrer dans des cases prédéfinies. Pour être une vraie petite fille, il faut s'habiller en rose. Pour être un vrai petit garçon, il faut aimer les camions et s'habiller en bleu. Ça paraît tout bête, mais il faut vraiment sensibiliser à toutes ces représentations qui nous entourent. Et je pense que ce qui est peut-être compliqué, c'est que le féminisme fait peur parce qu'on a l'impression que c'est un mouvement théorique. On a peut-être eu l'image d'un féminisme agressif, revanchard, qui voulait faire prendre le dessus, qui voulait que les femmes reprennent le dessus sur les hommes. Et ça, c'est des préjugés qu'il faut faire tomber pour montrer que c'est vraiment un mouvement qui veut militer pour plus d'autonomie individuelle. Donc je pense qu'il faut à la fois vulgariser les discours et lever les préjugés.
Stéphanie Pahut, vous parlez aussi vous êtes en train aussi de critiquer en fait le mythe d'une politique au féminin plus humaine. Vous dites que ce mythe est en train de rabaisser en fait les femmes élues, juste pour revenir un peu sur le terrain politique.
Oui, alors je pense simplement, enfin ça c'est ce que je lis dans la presse, mais on décrit les politiciennes comme étant différentes des hommes, donc on fait comme si les femmes politiciennes avaient des pratiques vraiment différentes. Effectivement, on a tendance à penser que les femmes seraient plus humaines, plus morales. D'ailleurs, il y a l'hypothèse qui a été posée, on a quand même dit sur une radio romande que c'est grâce aux femmes qu'on sortait du nucléaire. Tout ça parce que les femmes auraient une vision plus humaniste de certaines problématiques sociales. Alors moi j'imagine que pour moi c'est contre-productif parce qu'on réenferme les hommes et les femmes dans des rôles prédéfinis. Non seulement on empêche les femmes d'aller dans tous les terrains, mais c'est la même chose en miroir pour les hommes, mais en plus, on empêche d'avoir des modèles féminins plus ouverts. Donc je pense que c'est un peu contre-productif de donner cette vision différentialiste de la pratique politique. Et il y a des études qui montrent qu'au bout de quelques années à peine de pratique, les femmes pratiquent la politique exactement de la même manière que les hommes.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites. J'ai envie de rebondir parce que j'ai vu qu'il y avait. Vous avez certainement lu la chronique de Marie-Hélène Mioton dans Le Temps, peut-être, qui revient sur cette question que les femmes, ce sont donc grâce à des femmes, Angela Merkel en Allemagne, nos conseillères fédérales majoritaires en Suisse, que nous sortirions du nucléaire avant les autres. Et elle tourne ça de manière très péjorative en disant que depuis toujours, les femmes ont eu peur du feu et que donc là, elles ont un réflexe de peur. Donc on n'en sort pas, en fait.
Non, mais parce que c'était attendu. C'est ce que j'ai dit quand on m'a interrogé il y a une semaine, on m'a dit, mais alors, vous trouvez pas que c'est génial qu'on reconnaisse aux femmes cette plus grande empathie, ce plus grand sens moral, etc. J'ai dit, mais ça va se retourner contre elles, parce qu'on va dire que justement, c'est sous effet de la peur. Donc effectivement, on sort pas de ça si on casse pas l'idée que c'est l'identité sexuelle qui définit l'identité politique. Et pour moi, c'est vraiment vital de casser cette idée-là. Enfin, la décision qui a été prise par rapport à la sortie du nucléaire, elle a été prise sur des bases économiques, écologiques, politiques.
Donc, qui n'ont aucun lien avec le genre.
Donc pour moi, c'est vraiment une erreur que de lier l'identité sexuelle à la décision politique qui a été prise.
Quel serait le Graal, quel serait le Graal? C'est la mixité, mais comment?
Alors, je pense qu'on est obligé de passer par certaines mesures un peu de force, mais enfin, les quotas sont encore nécessaires, la discrimination positive, donc je pense que ça, c'est nécessaire pour pouvoir imposer dans les imaginaires l'idée que les femmes et les hommes peuvent se trouver partout. Donc je pense qu'il y a encore ces mesures-là qui sont nécessaires, même si en théorie, je les défendrais pas forcément. Mais il faut vraiment, ouais, c'est vraiment ça, cette idée de fond au niveau des représentations, mais c'est ouvrir les imaginaires.
Stéphanie Pahut, merci. Merci beaucoup d'être venue en direct sur Radio Résistencia. Je le rappelle, vous êtes maître assistante à l'Université de Lausanne et spécialiste des questions féminines. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, je vous souhaite un bon 14 juin. La fête, est-ce que vous allez faire la fête? Non. Ce soir ou encore?
Non, là, je vais travailler un petit peu quand même. Pour,
après une journée de grève. Après une journée de grève. Très bien. Merci beaucoup, Stéphanie Pahut.
Merci à vous.
Merci, bonne soirée. Vous écoutez Radio Résistencia 96.0 et puis en direct sur Internet et en streaming sur Fréquence Banane. Cette aventure réalisée avec la collaboration de Fréquence Banane. On remercie Adriano Piteri et puis Jessica Da Silva qui ont contribué et qui ont été ici tout au long de la journée corps et âme pour cette journée nationale de grève et d'action.
A woman down the street, he don't really love me. 'Cause if he did, he wouldn't do it. Somebody come get me before I kill this man. Somebody come get me, come get this knife off me head. He don't wanna love me. Him got a woman I'm dying to meet, don't really love me. Lord of mercy, don't make me do it.
Oh. Lord of mercy,
he'll be begging, please.
Lord of mercy,
begging on his knees. Pack up everything in here and throw out what he leaves. Pack up everything for you and take back my keys. Why? He said a bitch named Sandra. Why? And that's what caused all this drama.
Well, give me back.
Down the street, he don't really love me.
Cause
if he did, he wouldn't do it. Say, Lord of mercy, what will I do? Lord of
of mercy. Is he killing you? Lord of mercy. Just wait and see. Lord of mercy. If you don't give me back my keys and leave, 'cause I don't need you no more. Give me back my keys. Don't look at me. Go back to your home. Somebody come get me before I kill this man. Get this knife out me hand. He don't wanna love me. Said he got a woman down the street. He don't really love me. 'Cause if he did, he wouldn't do it. Oh, somebody come get me before I kill this man. Somebody come get me before I put this knife in my hand. Go hear a shutter one, two. And the noise will bring the boys in blue. Lord of mercy, what did I do? Shushata, 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 shushata.
El jefe del ejército libertador del sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl.
Radio Resistencia. Radio Resistencia. Radio Resistencia.
I said that I need you. Remember when the telephone went dead and we couldn't connect to each other like we used to? I was waiting for someone else to blame.
Radio Resistencia.